Cette semaine, hommage à Claude Jean-Philippe, récemment disparu. En 2012, il rencontrait Carole Desbarra. Ce soir, le petit-fils de Moses Naon.
Bonsoir. Claude Jean-Philippe, vous êtes un véritable amoureux du cinéma et en tant que tel, un de ses meilleurs avocats, comme vous l'a dit un jour Jacques Tati. Pour beaucoup d'entre nous, vous êtes associé à l'idée du ciné-club, celui que vous avez animé sur Antenne 2 de 1971 à 1996, et celui que vous continuez de faire vivre depuis plus de 20 ans aujourd'hui, en 2012, au cinéma L'Arlequin à Paris, tous les dimanches matins. Parallèlement, vous avez créé et porté sur les ondes de France Culture une émission « Le cinéma des cinéastes » à partir de 1976 et jusqu'à 1984. Cinéphile de terrain, homme de télévision, de radio, mais aussi de l'écrit, essayiste, diariste, réalisateur et producteur de télévision, vous avez été à vos heures scénariste ou acteur, apparaissant à l'occasion dans « L'amour l'après-midi » de Romère en 1972. Claude Jean-Philippe, de toutes ces casquettes, laquelle revendiquez-vous en premier ?
Eh bien justement, c'est pas à moi d'en décider. Il se trouve que quand on parle du ciné-club. Donc moi j'aimerais mieux qu'on me parle de temps en temps des documentaires que je réalisais pendant des années et des années. Mais il se trouve que la carrière de réalisateur de télévision est une carrière un peu bizarre, parce que comme on revoit pas les films, en l'occurrence, donc peu de gens savent aujourd'hui que j'ai réalisé des quantités de documentaires et puis des films de montage. Bon, j'aimerais bien qu'on m'en parle de temps en temps, qu'on me parle aussi de mes bouquins, mais il se trouve que il faut accepter les choses comme elles sont. Il se trouve que mon nom et ma personne sont liés à l'idée du ciné-club et de la culture cinématographique à la télévision.
Nous parlerons de vos livres, je vous rassure, et de certains des documentaires que j'ai pu revoir. Mais peut-être pour commencer, pourrions-nous partir de Casablanca. Vous êtes le petit-fils de Moïse Naon, n'est-ce pas ? Parlez-nous de Moïse Naon.
Eh ben, écoutez, il n'est pas très connu. Encore qu'il ait écrit deux bouquins, enfin évidemment introuvables aujourd'hui, qui sont d'ailleurs en fait des recueils d'articles qui étaient publiés, je crois, dans la Vigie marocaine. Personnage étrange que je n'ai pas connu, il est mort en 28. Et je suis né en 33, et il se trouve qu'il a mené une carrière tout à fait étrange, enfin qu'on m'a raconté, qui était celle d'un enseignant venant d'Alger et d'un membre de l'Alliance israélite universelle, qui était un peu sur le modèle de Jules Ferry, mais pour les Juifs, et qui consistait à prendre les Juifs très pauvres d'Afrique du Nord et à leur donner une instruction française. Carrément à les épouiller. Enfin, je me rappelle très bien que dans les écoles où ma mère était institutrice, on leur rasait le crâne, on les épouillait et on leur apprenait exactement à la manière des instituteurs de Jules Ferry. On les amenait jusqu'au certificat d'études de manière à en faire des, au bout du compte, puisque ça a été mon cas, des Français. C'est-à-dire, moi je ne suis pas passé par l'Alliance, puisque j'étais français depuis deux générations par mon grand-père, ça a été le travail de Moïse Naon dans sa jeunesse, mais que donc il remonte très 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 loin. Et puis soudain, cet homme a eu une vocation étrange pour un enseignant, je crois à peu près unique dans son genre, de colon, d'agriculteur. Il a pris une ferme dans le nord du Maroc, à Sidi Ouédar. Et il est devenu agriculteur, et d'après ce qu'on m'a raconté, il avait une sorte d'influence, ses bouquins sont très très paternalistes d'esprit, il parle des Arabes en disant « nos protégés », ce qui est pas très bon. Moyennant quoi, ses articles, ses textes, vont à l'encontre du racisme régnant dans ces années-là, et il les défend en défendant leur tradition, en défendant leur culture, etc. Moyennant quoi, évidemment, il n'était pas très doué pour être colon, puisque d'après ce qu'on m'a raconté, d'après ce que m'a raconté mon père, il fabriquait des pastèques, enfin, dont le prix de transport excédait très largement le prix de vente. C'était une très 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 mauvaise affaire, donc. Je crois qu'il a fait de l'agriculture un peu, un peu d'une manière poétique. Le bouquin s'intitule Les notes d'un colon du Rarb. Le Rarb, c'est une région dans le nord du Maroc, près de Tanger, et voilà. Alors, en le lisant, j'ai reconnu dans le style de mon grand-père quelque chose que j'avais moi-même ressenti, un besoin de clarté, une note très profondément humaniste qui m'a été transmise par lui, mais sans que je l'aie jamais connue.
Et donc, en fait, ça vous est parvenu par un livre ?
Ça m'est parvenu par deux livres, oui. Les Mémoires d'un vieux Marocain et Les notes d'un colon du Rarb, avec une préface du maréchal Lyoté.
Ah bon ?
C'était le Maroc de Lyoté, hein. C'était le Maroc qui n'a rien à voir avec le Maroc ou la colonie telle que on a pu la critiquer à juste titre, hein, et telle que je l'ai critiquée moi-même dès mon adolescence.
Et donc, vous êtes dans le Rarb, c'est-à-dire dans le Maroc espagnol quand même, à ce moment-là,
Non, le Rarb était français, c'était pas très loin du Maroc espagnol, mais ça, ce sont mes 5 premières années dont je me souviens pas, sinon par des récits de familiaux. J'ai été élevé dans la campagne, dans un tout petit village, Ouedzane, et puis soudain la ville, soudain les feux rouges, soudain le cinéma, voilà, donc...
À 5 ans
39. Alors en plus, 39, mon père est mobilisé, il y a un climat très très lourd que je ressens sans pouvoir me l'expliquer, parce que... j'entends mes parents parler d'un certain Hitler.
Vous avez même une théorie sur le sujet. Vous avez bien dit que si on faisait comme si on ne l'entendait pas, qu'on ne le savait pas, ça pourrait peut-être résoudre les questions.
Je disais à mes parents, on n'a qu'à pas le dire qu'on est juif, effectivement. Il y en a un certain nombre qui l'ont fait. Mais quand même, ce qui est très étrange, c'est que je me rends bien compte que quelque chose se passe, puisque on m'enlève à l'école communale pour me remettre à l'école israélite, parce que je suis plus français. J'apprends que je ne suis plus français à cause des décrets de 40. Y a quelque chose de très très lourd dans l'air. Ça, je m'en rends bien compte. Sauf que mon père est démobilisé sur place, alors qu'il aurait pu se retrouver dans la métropole avec son bataillon. Et que ma mère a poursuivi son travail d'institutrice, et puis le cinéma, et puis les Américains. Voilà, c'est 42, ils débarquent.
Et ça, il faut en parler, parce que je crois qu'en France, on n'imagine pas ce que ça a pu être au Maroc, que cette arrivée, en particulier à Casablanca, des Américains, des GI campant dans le parc Lyoté, qui est le grand parc au centre de Casablanca, envahissant tout cet espace, distribuant des bonbons plus ou moins gentiment.
Et des chewing-gums. Oui, enfin, un peu brutalement, dans certains cas, ils nous les balançaient à la figure. Mais quand même, hein, le give me chewing-gum, c'était un rite chez les gosses de l'époque. Il y avait un copain au lycée, parce que je suis déjà au lycée, je dois déjà être en 6e, en 42, et j'ai un copain dont je me souviens le nom, bizarrement, qui s'appelle Armand Hamzalag, et dont la famille a reçu un officier américain, lequel a apporté du Coca-Cola. Et j'ai essayé de lui faire raconter le goût que ça pouvait avoir. Il en parlait comme d'une liqueur sublime. Bon, mais on se rendait absolument pas compte du goût que ça pouvait avoir. On lui faisait raconter ce que pouvait être le Coca-Cola. Et puis les Américains, effectivement, s'installent au parc Lyoté. Et tout change, enfin. C'est mon enfance.
Et là, donc, vous avez 10 ans, un climat plus léger, j'imagine, de toute façon, vu que les Américains étaient là pour aussi protéger les populations, entre autres juives, mais pas uniquement, les Français aussi. Et peut-être que là, le cinéma peut commencer à faire ses effets. Vous allez au
cinéma. Le cinéma a fait tout de suite ses effets. Je suis certain, enfin, est-ce que j'ai recomposé mes souvenirs, mais je suis certain qu'en 1939, j'avais déjà vu 3 fois Robin des Bois. Le Robin des Bois de Michael Curtis avec Errol Flynn. Je crois que ça a été tout de suite très 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 fort, mais je me suis rendu compte par la suite que ça tenait aussi à ma génération. C'est-à-dire que c'est la génération de Woody Allen à New York et de Truffaut à Paris. Hein. C'est-à-dire le monde extérieur était tellement brutal, enfin c'était la guerre mondiale, que le cinéma était très 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 largement un refuge, aussi bien d'ailleurs pour les Français pendant l'occupation, parce qu'on sait que les salles étaient pleines, que dans les cinémas de Casablanca, dont je me souviens, alors que j'ai pas une mémoire particulièrement vive, je me souviens du Vox, qui était un cinéma à 3 étages, et du bruit que faisaient les pépites des gens qui consommaient des pépites en regardant des films. Je me souviens du brouhaha, je me souviens des 2 cinémas de Pouilleux, qui allaient vers la place de France. De Pouilleux, c'était des tout petits cinémas. Je me rappelle d'ailleurs, c'est mon premier Technicolor, c'est là que je l'ai vu. C'était l'Apollo et le Régent, là d'un côté, mais en même temps, Boulevard de la Gare. Je me souviens très nettement de l'Empire et de l'ABC qui est venu par la suite à côté, et puis du Colisée, du Triomphe, qui étaient 2 salles parallèles, puis du Rialto, enfin c'est le cinéma occupait une place très très considérable, et pas seulement dans ma vie, dans celle de mes parents aussi, puisque je me rappelle que le soir de Noël, il est bien évident que mon père nous envoyait, mon frère et moi, faire la queue le 24 décembre à 9h du matin pour avoir des places pour le soir. Les salles de l'époque étaient extraordinairement vivantes, nombreuses, enfin au Vox c'était carrément la foule.
Je vous ai apporté une photo qui représente... il nous faut des lunettes, là. C'est le Lynx.
Oui, mon premier ciné-club, c'était là. Quand j'ai eu 18 ans, je croyais avoir déjà une culture cinématographique. Imaginez ce qu'elle pouvait être. J'ai créé un ciné-club là.
C'était pas le ciné-club du dimanche matin?
Non, c'était dans la soirée. Et j'étais déjà péremptoire.
Mais là, par exemple, le Lynx, moi, quand je regarde cette photo, je suis très frappée.
C'est plus tard, le Lynx. Hein. C'est pas la guerre, hein. Le Lynx, c'est un peu plus tard.
C'est 1950, ouais, effectivement. C'est ça, ouais. Et c'est une architecture d'une modernité dans la décoration. Il y a une grande volée plissée qui fait un faux plafond, qui était quand même très étonnante, et un nombre de places, là aussi, considérable. Ce qui m'amène à revenir sur ce que vous disiez, sur la place du cinéma dans la culture de Casablanca. J'ai l'impression que c'est un petit peu particulier, bien sûr. Tout ce que vous avez dit sur le fait qu'en France, pour François Truffaut, le cinéma c'était aussi important à la même époque que Woody Allen, etc. J'en suis persuadée. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans la communauté juive de Casablanca, le cinéma, et le cinéma américain en particulier, avait une place tout à fait spéciale?
J'ai découvert par la suite qu'on était à la même latitude que Los Angeles.
Ah, ça explique.
Et qu'il y a un climat comparable entre... la Californie et le Maroc, et puis le western, quoi. Le western avec l'ambiguïté, enfin les Indiens et les Arabes, quoi. C'est bien entendu, moi j'ai pris très assez tôt le parti des Arabes, mais on regardait les westerns avec... il y avait quelque chose de semblable, enfin en tout cas il y a aussi l'espace. C'est-à-dire que, juifs ou pas, d'ailleurs, là, en l'occurrence, les petits Espagnols du quartier...
Du Marif,
étaient aussi fous que nous de Sinoche, très certainement. Il y avait un fait quand même simple, c'est que, naissant en 1933, étant français, naturalisé à 2 générations, mais français quand même, on avait derrière nous un continent. C'est-à-dire que la chose dont je me suis aperçu en arrivant en métropole en 54, c'est que je respirais plus à la dimension d'un continent. C'est-à-dire que tous les colons de l'époque vous le raconteraient, ils faisaient 100 km en bagnole pour aller prendre l'apéritif avec un de leurs copains. Donc le sentiment de l'espace se retrouve dans le cinéma américain, de toute évidence, et dans le western en particulier. Puis la mer, enfin, je crois que... Mais je voudrais quand même revenir sur ce que représente Casablanca pour moi, affectivement. Je vais vous raconter une histoire qui remonte à 1989. où je sortais d'une opération d'un double pontage des coronaires, après une période de réanimation assez douloureuse, je me suis retrouvé dans ma chambre, dans ma vraie chambre, au service chirurgie, dans le service cardiologie de l'hôpital Lariboisière. Et un soir, j'ai fait un rêve. Et ce rêve était le suivant. Un tapis volant partait. Je suis monté dans ce tapis volant, j'ai demandé où il allait. La réponse était Casablanca. Et pour moi, c'était du pur bonheur. À ceci près que j'ai quand même demandé combien ça allait me coûter. Parce que ça devait... Voilà. C'est donc vous dire à quel point je suis attaché à ces années d'enfance et d'adolescence, parce que pour moi, elles ont été cruciales.
Et en particulier par cet environnement du Maroc, de Casablanca.
De la mer.
Oui.
De la mer, de la rue d'une grande ville. Parce que j'ai toujours tendance à penser, c'est à Casablanca que j'ai appris ça, que j'ai pu formuler par la suite, à savoir que il y a deux éléments extraordinairement cinégéniques, comme on disait autrefois, qui se prêtent admirablement à la prise de vue cinématographique, et qui sont la mer d'une part et la rue d'autre part. Parce que la mer et la rue sont imprévisibles. Vous mettez une caméra devant la mer, vous ne pouvez absolument pas prévoir l'image. Vous mettez une caméra devant une rue, vous ne pouvez absolument pas prévoir ce qui va se passer. C'est dans mon enfance que j'ai ressenti ça pour la première fois et que j'ai été tout de suite extraordinairement sensible à la mer, à la rue. Je vous ai dit que ma génération était allée au cinéma en le prenant un peu comme un refuge. Mais dans le cas des gens qui ont été libérés par les Américains en 1942, il y a une chose tout à fait particulière. C'est que on n'a pas vu la guerre d'aucune façon. Le débarquement américain, je crois qu'il y a eu deux trois journées de combat sans grands dégâts. Et puis, tout de suite, la guerre s'est déroulée, bien sûr, 42, 43, 44, enfin ces années folles du point de vue de l'histoire de l'humanité, on les a vues au cinéma. Ma vocation de spectateur s'est déclarée là. C'est-à-dire que, et en même temps avec une certaine honte, en fait, la honte du spectateur, à savoir de ne pas être acteur. De ne pas être victime des crimes, de ne pas être acteur de il y a des images qui reviennent tout le temps dès qu'il s'agit des Anglais en Libye, c'est les canons d'El Alamein qui trouent la nuit, enfin ça fait des images magnifiques. Je veux dire, on a vécu ça
aux actualités en fait. Vous l'avez vu aux actualités.
Oui, mais c'était très fort justement, c'était cette concision des actualités, évidemment pas de question de télévision, c'était d'une force extraordinaire, d'autant que c'était suivi. On suivait ça ardemment. Moi, je me rappellerai toujours, on était en vacances à Yémouzer, qui est une ville du Moyen Atlas, en août 44. Et on apprend soudain que Paris est libéré. Enfin, on l'apprend par la radio. Je me souviens pas de joie plus grande dans mon enfance que ça. Imaginez en même temps cette ville champignon, parce que Casablanca était une ville qui ne cessait pas de se construire, de s'édifier, qui était une ville d'une très grande effervescence humaine. Et bon, je suis éperdument lié à cette période. D'autant qu'il y avait la mer et que on était à la plage de juin à septembre. Enfin, donc, c'est tellement fort que j'ai jamais voulu revoir. Je suis parti à Paris en 54. Je suis rentré au Maroc pour faire mon service militaire en 58. Mais au-delà, jamais. Et volontairement parce que c'est trop fort.
Et puis,
je sais pas, on s'éloigne du cinéma, là, non ?
Non, 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 pas du tout. On parle de vous, de votre vie. C'est ce qui nous intéresse. Et comment, parce qu'une vie de cinéma, ça se construit avec l'homme que vous êtes. Comment vous vous êtes fait ? Comment votre sensibilité s'est construite ? Est-ce que vous avez été sensible, vous étiez très jeune à l'époque, aux attentats qu'il y a eu en 1953 ou à Casablanca ?
Oui, mais alors là, je vais vous dire une chose incroyable. C'est qu'à cette époque-là, effectivement, j'étais entré dans le groupe, dans le centre dramatique marocain qui était sous le modèle des centres dramatiques provinciaux de l'époque, avec Voisin, qui est André Voisin, qui a fait une belle carrière par la suite, et qui avait créé ce pas seulement d'une école d'art dramatique, mais ben, il avait créé une troupe. On jouait à 16, 17, 18 ans, j'ai joué des pièces entières. Enfin, j'ai joué le bal des voleurs d'Anouilh, j'ai joué les fourberies de Scapin, où jouait un des vieillards à 18 ans, enfin bon, etc. Donc on avait construit notre propre théâtre, qui était une baraque, on l'avait appelé la baraque d'ailleurs, qui était une baraque tirée des surplus américains de l'époque. Et on l'avait construit dans un endroit pas particulièrement préservé, mais ça nous empêchait pas de jouer tous les soirs. Les attentats, les fameux attentats qui ont suivi l'exil du sultan Mohamed V à Madagascar. Mais là encore... je ne saurais me souvenir d'une terreur particulière. Ça a jamais été le 11 septembre. C'était comme ça. C'était une espèce de folie dans l'air où une bombe pouvait éclater à tout moment. Ça faisait partie de la vie. Ça faisait partie de... Attention, quand on parle de la violence d'aujourd'hui des banlieues, évidemment, on brûlait pas de voitures, mais il y avait des bombes qui explosaient et il y avait une violence. Là, je m'en souviens, il y avait une violence latente dans la ville, et particulièrement à nos âges. Je me souviens de bagarres, de lance-pierres avec des dates, attention, des dates bien sèches, oui, vertes. Bon, c'était un pays... Il y a une violence qui régnait, et les attentats en faisaient partie, et puis là-dessus, je suis parti à Paris et j'ai appris que le sultan était rentré. Ça a quand même été beaucoup moins... Ça a été violent, mais ça a été beaucoup moins profond, en tout cas, dans les esprits, que l'Algérie française et que l'OAS et que le FLN, etc. Enfin, c'est pas comparable. C'est pas comparable.
En effet, l'indépendance s'est passée très différemment. Et en fait, vous vous sentiez très proche des Marocains, ce qui était quand même relativement rare... À cette époque-là, ça n'était pas l'attitude la plus courante. J'ai lu quelque part que vous aviez présenté vos excuses au comédien de la troupe marocaine lorsque Mohamed Ben Youssef a été, c'est-à-dire le roi du Maroc, a été destitué. C'est-à-dire que vous sentiez un peu responsable, partie
non, mais,
prenante.
Non, mais tout de suite. Enfin, c'est un jour, je me suis demandé pourquoi on les tutoyait, et j'ai posé la question. Mais pourquoi on les tutoie alors que entre nous, quand on connaît pas les gens, on se vous voit. Oh, mais ils connaissent pas autre chose que le tutoiement, etc. Et je me rappelle très nettement. Alors je sais pas quel âge je pouvais avoir. Il y avait l'épicier de la famille, celui chez qui on allait tous les jours, et je me suis mis à le vouvoyer. À sa grande surprise, je suppose. Je sais pas comment il l'a pris d'ailleurs, mais c'était comme ça. Je sais pas du tout ce qui m'a pris, hein, parce que mon père qui parlait arabe, hein, alors que je ne parlais pas arabe, et qui était beaucoup plus proche d'eux par certains côtés, mais qui était en même temps très très pour le protectorat et la présence française, comme on disait à l'époque. Je sais pas ce qui m'a pris, c'est l'adolescent, je ne sais pas. Je recevais l'Observateur, j'étais abonné à l'Observateur, au vrai France Observateur. Celui, le premier, enfin, qui était réellement un vrai journal de gauche, je le recevais sous pli fermé. Parce que il y avait les articles, je me rappelle avoir lu cet article sur « Existe-t-il une Gestapo en Algérie ?» qui était un article de l'Observateur, qui était bien avant 54, hein, puisque je suis arrivé à Paris en 54. J'ai pris conscience de ça, et puis... Et puis là, il y a une histoire qui me revient et qui, bon, c'est une histoire que me racontait ma mère. Et pourtant, ma mère n'était pas une humoriste particulière. Ça se passe à Ouedzane, précisément dans le village de mon enfance. Il y a une postière pied noir, un peu, bon, comme vous l'imaginez. Et se présente un monsieur en djellaba, la postière lui dit « Ah, qu'est-ce que tu veux, toi, l'arabe ?» Et le type, qui était probablement un musulman raffiné et lettré, lui répond « Ne parlez pas si fort, mademoiselle, vous allez nous compromettre. » Magnifique.
C'est une belle leçon.
Magnifique. Bon, voilà, donc... Je sais pas d'où ça me venait. Enfin, je sais absolument pas d'où ça me venait. Peut-être de mon grand-père, j'en sais rien. Je sais pas du tout comment mon grand-père aurait réagi à l'époque. D'ailleurs, contre son propre fils. Mais je me souviens justement du sourire radieux de mon père lorsqu'il est rentré à la maison en disant « Ça y est, tout est fini. » Il l'a envoyé à Madagascar, le fameux Mohamed V, qui représentait finalement l'espoir d'indépendance des Marocains. Et il me dit, tout est fini, tout va bien se passer maintenant. Et je me souviens, lui a répondu, non, papa, c'est maintenant que tout commence.
Mais c'est une sensibilité que vous allez manifester tout au long de votre vie, d'être du côté, effectivement, des gens qui sont opprimés, et en particulier des gens qui sont...
Oui, mais attention, je suis un bobo, et je le revendique.
Super.
J'en ai absolument marre qu'on se paye de notre tête. Bon, je suis pas particulièrement riche puisque je suis retraité. Je veux dire que il n'y a pas de raison de renoncer à surtout en ce moment, de renoncer à ce qu'on a pu croire, même compte tenu des déceptions qui ont suivi, bien entendu.
Demain, la suite de cette rencontre de Claude Jean-Philippe avec Carole Desbara, enregistrée en 2012. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, réalisation Gilles Davidas, Thomas Duterre, coordination Belle Indola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.